Radio Kapi. Belinda Bosuma pour le journal.
Psychose au sein de la population de Kamituga au sud Kivu. À la base, des rumeurs faisant étendre une probable attaque des Mai Mai actifs dans la zone. Des détails dans un instant. Assistance aux populations victimes du phénomène Kamuina Nsapu dans le Kasaï. Un projet vient d'être lancé à Kananga pour améliorer leur accès aux services de santé reproductive. Il est mis en œuvre par le FINUAP et la Caritas. Son coût, plus de 195 000 dollars américains. Élection RDC. Le dimanche 24 juin débute le dépôt des dossiers des candidatures à la députation provinciale dans les directoires des partis politiques à Lubumbashi. C'est déjà l'effervescence. Dossier à suivre en seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du sud Kivu. La population de Kamituga, en territoire de Mwenga, a passé la nuit dans la psychose d'une attaque des groupes armés. Selon des sources concordantes, des rumeurs ont circulé dans la cité sur une probable attaque Mai Mai actif dans la périphérie. Ces miliciens menaceraient de descendre dans la cité en vue de libérer leurs collègues arrêtés et accusés d'être impliqués dans l'attaque du 9 mai dernier contre trois maisons commerciales à Kamituga, attaque qui a causé mort d'hommes. Au total, 7 suspects sont aux arrêts dans le cadre des investigations. Michel Chirimwami nous en dit plus.
L'administrateur du territoire de Mwenga appelle la population au calme et assure que l'enquête se poursuit pour dénicher les suspects dans cette attaque. Des suspects qui, ajoute-t-il, devront répondre de leurs actes devant le tribunal secondaire de Kamituga dans un délai qui reste à déterminer. Pour sa part, le commandant du régiment basé à Kamituga reconnaît la psychose réelle dans laquelle les habitants ont passé la nuit dernière et que beaucoup n'ont pas dormi chez eux à la suite de cette rumeur. Selon lui, les habitants ont des raisons de croire à cette rumeur d'attaque vu la récente arrestation de 8 présumés Mai Mai Nikiliba, mais les forces de l'ordre, dit-il, sont debout et prêtes à protéger la population. Pour la nouvelle dynamique de la société civile à Kamituga, des patrouilles nocturnes sont menées actuellement par les forces de l'ordre, mais il faut des mécanismes pour enrayer la méfiance qui existe entre la population et les forces de l'ordre, et c'est pour un retour au climat de confiance mutuelle. Selon la NDC, la psychose est plus vive dans certains quartiers comme Kangambo, itinéraire et porte d'entrée des assaillants dans la cité. Bukavu, Michel Chimwami, Radio Okapi.
Au nord Kivu voisin, la Fédération des comités des pêcheurs du lac Édouard, FECOPEIL, dénonce un nouvel activisme des Mai Mai sur la côte sud-ouest du lac Édouard. C'est à cheval entre les territoires de Rutshuru et de Lubero. Ces milices ont établi des nouveaux bastions dans cette zone après avoir été chassés par l'armée du sud-est du lac Édouard. C'est après les opérations lancées fin mai, opérations qui se poursuivent encore. Dans une lettre adressée dimanche au commandement Sokola 2, FECOPEIL demande l'extension de ces opérations là où se regroupent de nouveau ces Mai Mai. Bernard Denyengi.
Du 13 au 17 juin dernier, la FECOPEIL rapporte la prise en otage d'au moins 30 pêcheurs de Lubero et Rutshuru par ces Mai Mai autour des baies de Tchanika et Ndwali au sud-ouest du lac Édouard. Ces pêcheurs seront relâchés après versement de 100 dollars de rançon chacun. Ces miliciens ont par la même occasion saisi 24 pirogues ainsi que des matériels de pêche parce que des jetons de taxes illégales n'ont pas été payés par ces pêcheurs. Un d'entre eux, qui tentait de résister, aurait même été blessé à coups de poignard dimanche. Le secrétaire exécutif de la FECOPEIL le plaide pour l'extension de ces opérations, Josué Mukura.
Nous avons adressé une lettre au général pour encourager les opérations. Nous avons maintenant commencé à travailler à toute sécurité dans le sud-est du lac Édouard. Nous voulons ainsi que les opérations puissent continuer puisque la plupart des milices ont pris refuge maintenant à la côte sud-ouest et aujourd'hui, voilà, les pêcheurs continuent à souffrir.
C'est vers fin mai que le commandement Sokola 2 a lancé les opérations militaires contre les Mai Mai Charles au sud-ouest du lac Édouard. À présent, les baies de Kafuzo, Kamuroro, Kibari, jadis occupées par ces miliciens, sont reprises par l'armée. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Retour au sud Kivu, dans les hauts plateaux de Bidjombo, territoire d'Ouvira, des violents combats opposant différents groupes armés locaux font état d'une dizaine de morts, dont 4 civils. L'information livrée ce matin par un chef de village de la région est confirmée par plusieurs sources concordantes, dont le chef de poste d'encadrement administratif de Minembwe, Gadi Mukiza, souligne avoir enregistré plusieurs centaines de déplacés en provenance de Bidjombo à Minembwe. Nous y reviendrons. Dans le Haut-Katanga, les communautés Toa et Zela dans le territoire de Pueto appelaient à la non-violence et à la cohabitation pacifique. Message lancé le week-end lors de la rencontre organisée par la MONUSCO Lubumbashi et ses partenaires, dont le ministère provincial de l'Intérieur et la commission provinciale diocésaine Justice et Paix. Ces communautés en conflit ont été représentées par leurs leaders, 48 au total. À l'issue de cette rencontre, les participants ont promis de privilégier le dialogue et la cohésion pour une paix durable dans leur contrée. Plus de était avec Karine Topé.
Cette rencontre entre les deux communautés en conflit s'est tenue au village Mutabi, fief du peuple Toa, situé à quelques kilomètres de Pueto Centre. Et c'est la deuxième rencontre avec les deux communautés organisée par la MONUSCO en l'espace de 2 mois. Le conflit entre Toa et Zela est à la base d'environ 10 000 déplacements internes des populations entre 2016 et 2017. Le message leur apporté était clair, fumer le calumet de la paix, privilégier le dialogue, bannir la discrimination et toute forme de ségrégation. Les autorités politico-administratives, coutumières, celles de la police et de l'armée et aussi la société civile ont aussi été mises à contribution. Les leaders des Toa et Zela se sont dit prêts à accompagner ce processus de pacification dans leur milieu. Ils ont promis de pérenniser les acquis de la paix de cette rencontre et se sont engagés fermement à devenir des messagers de paix et à ramener aussi à la raison leurs compères encore résistants. Ces deux rencontres sont organisées en prévision de la tenue dans les prochains jours du dialogue communautaire entre les deux parties en conflit. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Kapi.
Élections en RDC. Les formulaires des dépôts des candidatures pour la députation provinciale sont disponibles dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures installés dans les chefs-lieux des territoires et dans les villes. C'est ce qu'annonce la Commission électorale nationale indépendante. La CENI demande aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants de les retirer dans ces bureaux. Écoutez à ce sujet le rapporteur adjoint de la CENI, Onésime Koukatoula, au téléphone de Paul Matendo.
Les formulaires sont disponibles dans les sites de la CENI et dans les BRTC. L'opération dure 15 jours. Concrètement, les candidats ou les mandataires se présentent, ils retirent les formulaires, ils les remplissent et ils les déposent. Et dès que le formulaire est déposé avec des pièces en annexe, ils les déposent d'abord auprès de l'assistant réceptionniste qui procède au contrôle quantitatif. C'est-à-dire, il vérifie si toutes les pièces et les formulaires sont bel et bien là. Ensuite, l'assistant réceptionniste transmet tous les dossiers. Et bien sûr, il lui attribue un numéro d'ordre. Il transmet les dossiers chez les juristes vérificateurs qui lui procèdent au contrôle qualitatif, c'est-à-dire à la conformité par rapport à la loi. Après, le dossier va chez l'informaticien qui enregistre selon un logiciel commis à cet effet.
Les candidats doivent se faire identifier au préalable, c'est ce que vous dites.
Les candidats doivent être d'abord électeurs.
Et à propos de l'affaire du passeport de Moïse Katumbi, sachez qu'une information judiciaire va être ouverte en RDC à ce sujet. C'est ce qu'annonce un communiqué officiel du parquet général de la République daté d'hier lundi. Conformément à l'article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le parquet général de la République faisant office du parquet général près la Cour de cassation informe l'opinion qu'il ne pouvait rester indifférent face aux accablantes révélations faites par la presse internationale sur l'interpellation de Moïse Katumbi Tshapwe à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem en possession d'un passeport congolais visiblement falsifié. Aussi vient-il d'ouvrir une information judiciaire à charge du préqualifié, indique le dit communiqué. En réaction, le camp Katumbi parle d'un acharnement contre sa personne et d'une justice instrumentalisée. Olivier Kamita, tout son porte-parole, est joint par Paul Matendo.
Chaque fois que la presse parle de Moïse Katumbi, le procureur aux ordres s'empresse d'ouvrir une information judiciaire. Mais on s'étonne que le même procureur ne se saisissent pas de tous les scandales révélés par la presse internationale, le Panama Papers, le DGSI, le passeport biométrique qui devait coûter moins de $50 et qui en coûte 300 à chaque Congolais, les ministres et sénateurs à double nationalité, le détournement au sein de la CENI, du FPI, le détournement de Bukanga Alonso, $250 millions, le détournement de la Gécamine, les 80 sociétés familiales, tout ça révélé dans la presse, le procureur ne se saisit de rien, mais par contre, chaque fois que Moïse Katumbi est cité, il s'empresse d'aller saisir une information judiciaire. On considère qu'il y a là un acharnement contre Moïse Katumbi et que le procureur est simplement aux ordres. C'est une instrumentalisation de la justice. Quelle autre preuve voulez-vous que je vous donne?
Rappelons que le mercredi 13 juin dernier, le gouverneur honoraire du Katanga a été intercepté par les services aéroportuaires belges pour l'usage d'un passeport non valide alors qu'il revenait d'Israël en partance pour la Russie. Dans l'actualité, notez aussi que la fondation Friedrich Ebert, une asbel des droits allemands, œuvrant dans le domaine politique, va ouvrir ses bureaux et fonctionner en République démocratique du Congo. Un accord cadre autorisant officiellement cette fondation à s'établir en RDC a été signé hier à Kinshasa avec le gouvernement congolais. Le compte rendu de Honoré Missenga.
C'est le ministre d'État et ministre du Plan Modeste Bati qui a signé cet accord cadre avec le représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert en présence de l'ambassadeur allemand en RDC. La FFE est une fondation politique proche du Parti social-démocrate allemand, le SPD. Elle fonde son action sur la liberté, la justice et la solidarité dans un état des droits et démocratique. Et à ce titre, elle a eu par le passé à soutenir l'ANC en Afrique du Sud. Friedrich Kram Stelmoz, le représentant résident de la Fondation en Afrique centrale.
Présente dans plus de 100 pays dans le monde, la Fondation Ebert a joué, par exemple en Afrique du Sud, un rôle important dans son soutien à l'ANC de M. Nelson Mandela.
Côté gouvernement, le ministre d'État et ministre du Plan, Bahati, a salué l'arrivée sur le territoire congolais de la FFE et s'attend au renforcement de la coopération entre Berlin et Kinshasa.
Nous sommes convaincus que ce partenariat va renforcer les liens de coopération existants entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui de la République fédérale d'Allemagne.
La Fondation Friedrich Ebert a été fondée en 1925. Elle est la plus ancienne et la plus importante fondation politique d'Allemagne.
Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé du Kasaï central a lancé hier à Kananga le projet sur l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive chez les populations affectées par les conflits au Kasaï central et oriental, mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec la Caritas Kananga. Ce programme est financé par le Fonds japonais et à hauteur de plus de $195 000. François Kadima nous en parle.
Ce projet consiste à apporter une assistance aux populations déplacées et les familles d'accueil à la suite des événements de Kamunan Sapu. Quatre zones de santé sont concernées. Il s'agit de Katoka et Chikaji pour les Kasaï centrales, Miabi et Chilundu pour les Kasaï orientales. Quant aux activités prioritaires, le directeur du bureau de développement des œuvres médicales à Caritas Kananga a évoqué entre autres la prise en charge des complications césariennes, les accouchements et les infections sexuellement transmissibles et l'organisation des cliniques mobiles pour les populations les moins accessibles. Des campagnes pour le planning familial seront également organisées, a ajouté le docteur Daniel Toumba. À l'occasion, le ministre de la Santé du Kasaï central a salué ce projet qui, d'après lui, vient répondre aux besoins des populations appauvries par la dernière crise dans la région du Kasaï. John Binvulu a indiqué que l'amélioration de soins de santé au Kasaï central fait partie des priorités de son gouvernement. Signalons que le projet sur l'accès aux services de santé reproductive chez les populations affectées par les conflits au Kasaï central et oriental et d'une durée de 9 mois. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et puis, la première édition du forum Expo Café Cacao s'est poursuivie à Kinshasa. Ces travaux ouverts hier dans la capitale congolaise sont une initiative de la Fédération des entreprises du Congo, matérialisée par le gouvernement à travers les ministères de l'Agriculture et Commerce extérieur avec le concours de leurs services techniques. Selon les statistiques de la FEC, lors du lancement des travaux par le ministre de l'Économie nationale, la production du café et cacao en RDC a sensiblement baissé et c'est cette perte de production qui justifie leur organisation de ces assises de 3 jours pour en identifier les causes. Rwakagara Nzungize Emmanuel est le président de la commission Café Cacao à la FEC. Il explique au micro de Daniel Tambinzoni.
essayer de retenir de prime abord jusqu'alors que les exportations actuelles de café de la RDC atteignaient 120 000 tonnes en 89 et se sont effondrées lors des 20 dernières années pour atteindre 8 919 tonnes pour une recette d'exportation de plus ou moins 17 millions de dollars. À ce jour, ces statistiques montrent qu'en RDC, les exportations s'élèvent à plus ou moins 11 000 tonnes seulement l'an, pendant que des pays voisins comme l'Ouganda produisent 230 000 tonnes avec des recettes d'exportation atteignant plus de 700 millions de dollars. Cette situation engendre chaque année dans notre pays une perte des revenus d'environ 235 millions de dollars, un manque à gagner important pour l'économie congolaise. Dans les années 1970 et 80, les exportations de café dépassaient tous les autres produits agricoles d'exportation en RDC. Cet effondrement du secteur café a eu un effet socio-économique négatif dans les zones rurales du pays, favorisant un sous-développement attirant la pauvreté extrême, l'insécurité alimentaire et un faible accès aux services de base, notamment l'éducation, la santé et autres.
Actualité Afrique Monde.
Après 60 jours de grève, les médecins mauritaniens ont repris le travail hier à Nouakchott et à l'intérieur du pays. La grève est suspendue pour 2 semaines afin de donner plus de chances à l'aboutissement des négociations prévues avec le ministre de la Santé. En attendant, c'est le soulagement dans les différents hôpitaux. La suspension de la grève soulage des milliers de Mauritaniens restés sans médecins pendant des mois. Le ministre tunisien des Affaires étrangères est attendu demain mercredi en Italie pour une visite officielle qui intervient sur fond de polémique après la mort des migrants tunisiens qui tentaient de rallier l'Italie. Cette visite de Kemais Jinawi vise à renforcer les relations bilatérales, a précisé le service de communication du ministère des Affaires étrangères tunisien. Selon un responsable du ministère, cela fait suite aux dernières déclarations du ministre italien de l'Intérieur qui avait qualifié de délinquants les migrants tunisiens ralliant illégalement l'Italie. Toujours au sujet de la crise migratoire qui secoue l'Europe, Emmanuel Macron doit être à Berlin aujourd'hui pour un conseil franco-allemand avec Angela Merkel. À moins de 10 jours du conseil européen, la rencontre entre la chancelière allemande et le président français devait initialement être consacrée à l'élaboration d'une feuille de route franco-allemande sur la réforme de la zone euro, mais l'épisode de l'Aquarius qui n'a pu accoster ni en Italie ni à Malte avec ses 630 migrants à bord a changé la donne. Par ailleurs, le président américain doit participer aujourd'hui à une table ronde toujours sur l'immigration. Donald Trump souhaite que le Congrès vote au plus vite une loi qui prévoit la construction d'un mur à la frontière et d'autres mesures qui restreindront l'accès au territoire américain, et ce alors que la polémique enfle sur la politique de séparation des enfants des migrants de leurs parents, politique mise en place par l'administration au mois d'avril. La Maison Blanche estime qu'en jetant en prison les parents de ces jeunes enfants, elle n'est fait qu'appliquer la loi. Les images des très jeunes enfants en larmes et appelant leurs parents ont commencé à circuler le week-end et suscitent l'indignation, y compris au sein du Parti républicain.